La première
podcast. La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à toutes et à tous, celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles, dit-on en Afrique, où nous sommes ce matin avec un apiculteur qui a du courage à revendre. Bonjour, Olivier Laurent.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'Ilanga Nature, ça veut dire quoi Ilanga?
C'est le nom soleil en zoulou, qui n'a rien à voir avec Madagascar, on a décidé de prendre un nom. Pour avoir de l'international, on a choisi Zulu.
Et donc, vous êtes apiculteur. Votre miel sent bon la vanille, l'eucalyptus, le niaouli. Vous le récoltez à Madagascar après être passé par le Gabon, le Sénégal. Ça fait 36 ans que vous êtes belge du bout du monde. C'est marrant, on a un peu commencé ensemble. Vous avez quitté le pays quand on a commencé à faire l'émission.
Oui, à l'âge de 18 ans, j'ai décidé de partir et de vivre en Afrique, commencer ma vie en Afrique. Et en faisant des allers-retours sur la Belgique, sur l'Afrique, en commerçant sur l'Afrique avec du matériel d'occasion de Belgique, en le vendant sur l'Afrique et développer toute une sorte de commerce international entre la Belgique et l'Afrique.
Vous êtes passé de la mécanique à l'écologie et nous verrons avec vous comment, à Madagascar aujourd'hui, l'apiculture soigne les hommes et protège aussi ce qu'il reste de la forêt primaire. Alors dans notre ruche ce matin, deux abeilles qui butinent pour tisser des liens entre l'Afrique et la Belgique, Marie-Alice Mouiziré. Bonjour Marie-Alice.
Bonjour.
Toute jeune cadra, originaire du Rwanda, arrivée en Belgique lors des événements tragiques de 1994. Vous êtes entrepreneuse, passionnée par les métiers de la créativité et du stylisme minimaliste. Vous êtes aussi l'instigatrice de l'opération Now You See Me. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, on s'en doute un peu, mais quel est le but, l'objectif de votre campagne Now You See Me?
Pendant le confinement, j'ai eu l'impression de ralentir hein, comparé à avant le confinement. Et j'ai eu l'impression que je voulais vraiment partager un message de « est-ce qu'on me voit ?» Et je voulais faire en sorte que les autres femmes qui sont sur le projet, parce que c'est des femmes donc solidaires de plusieurs nationalités, qui puissent aussi exprimer « est-ce que vous me voyez ?» Parce que le calendrier, justement, il partage les racines, il partage la vulnérabilité et la diversité et multiculturalité.
Nous sommes le 17 janvier et il n'est pas trop tard pour se le procurez hein, votre calendrier 2021, Now You See Me. On voit la diversité aussi. À vos côtés, ben justement, une des mannequins, une des artistes de votre campagne, Carolina Johanna. Alors vous, Carolina, bonjour.
Bonjour Adrien.
Vous êtes commerciale, vous vous spécialisez pour l'instant en marketing digital, vous êtes aussi une jeune maman.
Tout à fait.
Chanteuse aussi, passionnée de gospel.
Oui, de gospel.
Vous nous ferez un petit extrait tout à l'heure?
Avec plaisir.
Et là, tout de suite, on va plonger dans votre répertoire.
Sunshine. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Sunshine, c'est votre prénom et nous on a la chorégraphie en studio. Vous pouvez voir parce qu'on réalise cette émission dans le grand studio avec des images. Vous pouvez la voir danser, elle est super. Sunshine, c'est votre surnom en fait, Carolina Johanna.
Mais disons que c'est mon surnom dans un certain contexte, hein, parce que mes parents ont leur petit nom, mes frères et sœurs m'appellent autrement. Mais les gens que je peux rencontrer, qui estiment que je leur apporte voilà, de la positivité et que je reste toujours positive même dans les difficultés, en fait, m'ont donné ce petit surnom. Tout à fait.
Vous avez commencé à chanter toute petite?
Oui, j'avais plus ou moins 5 ans.
Ça vient de papa et maman?
Ça vient de papa et maman. Papa a fait le conservatoire, maman grattait un peu la guitare. Donc on a grandi dans un environnement de musicien, entre guillemets, et de compositeur. Voilà, on aime beaucoup la musique.
Alors vous êtes passé entre autres à l'émission Pour la gloire. C'est l'ancêtre
oui.
de The Voice.
Oui.
C'était à la fin du siècle dernier. Ouais, ça va nous rajeunir.
Et ça ne me rajeunit pas, exactement.
La toute dernière année, hein, 1999. Vous avez fait l'Eurovision aussi à Stockholm?
Oui. Donc en fait, j'étais repérée à Pour la gloire par une autre artiste qui est passée dans l'émission précédente. Elle m'a demandé de l'accompagner pour les sélections de l'Eurovision, on les a passées ici en Belgique et on est parti à Stockholm pour défendre notre beau pays.
Avec Jean-Pierre Autier à qui
Tout
on tire notre chapeau.
Exactement.
Jean-Pierre qui commentait l'Eurovision
oui.
et qui était aussi le directeur de La Première, la radio que vous écoutez ce matin. Alors Olivier, on va revenir tranquillement sur votre parcours. Mora, comme on dit, oui. parce qu'on est à Madagascar. Il faut lever le pied, vous êtes d'accord Carolina Johanna?
Tout à fait.
Ouais. On lève le pied, tranquille. Et on peut aussi enlever un pull parce qu'il fait très chaud à Madagascar. Exactement. Janvier, c'est le plein été.
C'est le plein été, on est en saison chaude, juste avant les grandes pluies et les cyclones. Mais donc, c'est un petit peu à l'opposé de la Belgique. On rentre en saison bien froide maintenant. Mais très agréable, un climat toujours très agréable. Surtout la capitale, c'est assez frais la nuit et chaud la journée.
Vous êtes originaire de Gerpin,
oui.
Le pays de la Sainte-Rolande.
Oui, exactement.
Oui, vous avez grandi chez vos grands-parents, oui. À l'époque, scolarisé au collège Saint-Augustin. Ensuite, vous avez fait la mécanique aux Hominidés du Travail à Charleroi. Et vous avez terminé l'école à une date assez précise.
Mais j'ai terminé à l'âge de mes 18 ans. Le lendemain de mes 18 ans, j'ai arrêté l'école parce que c'était la condition avec mes parents. C'était tu vas à l'école jusqu'à 18 ans. Après ça, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de me débrouiller. Et grâce à mon père, il a accepté que je me fasse émanciper. Et donc je puisse monter une petite entreprise. Il a cru en moi, il m'a laissé jouer le jeu et puis ça a démarré. À 18 ans et demi, je suis parti au Sénégal, première fois. Il m'a déposé à l'aéroport. Première fois que je prenais l'avion, première fois que je partais en Afrique, et l'aventure a commencé.
Et là, votre vie bascule.
Ah oui, tout à fait.
Vous faites tous les métiers, armateur de navires de mer. Vous lancez dans l'industrie, fabrication de produits en béton, dans le pétrole au Gabon, dans l'agriculture en Sardaigne, où vous plantez des oliviers. Avant de vous lancer dans l'apiculture, quelle abeille vous a piqué ?
En fait, à voyager dans toute l'île et à travailler un peu partout sur l'île, je me rends compte que la population est quand même un peu en difficulté. Et on parle tellement d'apiculture, d'abeilles, de la préservation de la nature, de l'écosystème, et que l'abeille est un acteur très important là-dedans. Je me dis, à Madagascar, il y a toujours eu des bons miels. D'être resté 30 ans à Madagascar, en voyageant sur toute l'île, il y a de très bons miels. Donc je me dis, peut-être qu'il y a un créneau, un marché ouvri grâce au miel. Et en même temps, je me rends compte que c'est un revenu qui pourrait être intéressant pour les apiculteurs, pour les paysans. Ça va beaucoup plus loin, la recherche, c'est que grâce à l'apiculture, le paysan devient un protecteur de la forêt.
Bien sûr.
Parce que eux, pour vivre, ils n'ont pas trop de moyens quand ils sont en brousse. La seule chose pour avoir un revenu direct, immédiat, c'est couper la forêt, en faire du charbon de bois et commercialiser le charbon de bois pour les grandes villes. Donc l'idée, c'est qu'en leur apportant l'apiculture, ils deviennent protecteurs de la forêt. Ça ne demande pas des millions d'investissements donnés par des grands organismes internationaux. Il suffit d'aider le paysan à devenir apiculteur. Il en tire un revenu important, enfin plus important que le charbon de bois, et il devient protecteur de la forêt. Et il devient le gardien, le vrai gardien de la forêt.
Et c'est plus durable, parce que le charbon de bois, une fois qu'on l'a fait, il n'y a plus d'arbres. Exactement. Tandis que le miel permet la pollinisation.
Exactement, parce que sans abeilles...
Il n'y a pas de vie.
Pas de vie, c'est exactement ça. Et on ne s'en rend pas compte, et je pense qu'on n'en parle pas assez. Mais on a besoin des abeilles pour vivre.
Donc, si je comprends bien, vous êtes un industriel reconverti dans l'écologie.
Exactement. À certains moments de la vie, on change un peu d'orientation. On ne veut pas toujours rester non plus sur la même lignée. On essaie d'essayer de nouvelles choses. Et puis, pour laisser peut-être une trace très positive de notre passage. Donc, on dit pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer ? Et puis, on voit que ça marche. Mes enfants sont impliqués. Cette année-ci, on va mettre des ruches sur des bateaux, sur des caissons flottants, sur un canal à l'est de Madagascar qui s'appelle le canal des Pangalan. Donc on va poser des ruches, ça va devenir des barges itinérantes qui vont se déplacer. Dans certaines zones, il y a des fleurs de niaouli, dans certaines zones, des fleurs de nénuphar, de caféier, cocotier, litchi. Enfin voilà, on va vraiment trouver des...
Faire du miel avec caramel beurre salé, avec le biode et tout.
Exactement. Bon. Et puis donner quelque chose de neuf. C'est surtout créer quelque chose d'original. Et puis pour que les populations, grâce à ça, en se déplaçant sur les rives du Pangalan, on va essayer de former les populations à l'apiculture. Essayer par les ONG, par la Banque mondiale et les gros organismes de leur mettre des ruches à disposition et nous qui allons être là pour les accompagner.
Des populations qui vous apportent beaucoup en retour, on en parlera tout à l'heure. Avec nous aussi une autre entrepreneuse, originaire du pays des Mille Collines, Marie-Alice. Vous travaillez chez Engie en Belgique, mais vous avez une autre passion, c'est l'entrepreneuriat féminin, le girl power et l'écologie aussi. Ne fût-ce que dans le choix de vos vêtements, vous pouvez décrire la tenue pour ceux qui ne vous regardent pas.
C'est une tenue traditionnelle du Rwanda. Mais là, elle est transformée parce que j'ai essayé vraiment de recycler ces tenues pour donner une deuxième vie. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour le projet Now You See Me, c'est que chaque femme, chaque mois, porte une tenue différente que j'ai recyclée sans coudre, en fait, pour qu'on puisse garder l'authenticité de ces tenues.
Et en voyant votre calendrier et toutes ces tenues, j'ai dit, tiens, vous avez beaucoup voyagé pour faire des photos. Mais non, tout a été fait chez nous.
Tout a été fait en Belgique, dans le jardin botanique de Meize.
Ah, c'est ça, vraiment... toutes ces plantes exotiques.
Exactement.
C'est pas mal. Donc, vous avez réduit l'empreinte écologique aussi. Si, ça a été fait chez nous.
Oui, exactement. Mais par contre, on voit vraiment les femmes de plusieurs pays. Du coup, on a l'impression d'amener ces pays en Belgique, en fait.
C'est ça que vous aimez en Belgique, spécialement à Bruxelles, ce côté Babel ?
Ce côté cosmopolitan, que j'appelle Cosmopolitan City. Là, on peut trouver des personnes de plusieurs cultures, de plusieurs origines. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore en Belgique, surtout à Bruxelles.
Vous êtes arrivée en 94, apatride.
Effectivement, apatride, donc sans pays. Et alors, plusieurs années, je suis devenue belge, donc je suis vraiment reconnaissante. attentes envers la Belgique de ma terre d'accueil maintenant, depuis plusieurs années.
Ben merci d'être venu nous enrichir aussi. On est très content que vous soyez là.
Merci
et
à vous.
Vous restez dans notre émission jusqu'à 10h. À vos côtés, Carolina Johanna. Vous êtes née en Belgique, mais de parents congolais ?
Oui, donc née en Belgique, mais d'une grand-mère congolaise, d'une maman qui est née aussi au Congo, ainsi que sa famille, et qui sont revenus vers les années 60 pour ne plus repartir finalement. Malheureusement, je dirais, pour... on n'a plus de pied d'attache là réellement, mais on a notre cœur et nos racines qui sont assez, qui nous appellent fortement.
On l'écoutera tout à l'heure dans vos chansons. Ici, c'est un chanteur malgache qui va ensoleiller votre dimanche. C'est vous qui l'avez choisi, il s'appelle Samoela.
Oui. Il y a quelques belles chansons, c'est un chanteur au début que je me rendais à Madagascar, il était très populaire.
Et on l'écoute dans les Belges du bout du monde sur la première à Madagascar, au Congo, au Rwanda. Nous faisons des allers-retours ce matin entre la Belgique et l'Afrique.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Soli, c'était Samoela sur la première dans les Belges du bout du monde à Madagascar. C'est un artiste contemporain qui a popularisé le vasomiténie. Mmh. C'est pas une maladie, hein, c'est un type de musique. C'est ce que vous écoutez dans vos mielleries, Olivier Laurent ?
Ben, on en écoute un peu moins maintenant parce que bon, il a la même génération que moi, mais il est encore assez présent à Madagascar.
Même génération que vous, c'est un quinca, quoi, un gamin.
Exactement.
Voilà, nous sommes aussi vieux. Avec Marie-Alice, entrepreneuse à Bruxelles, créatrice de la campagne No You See Me, et Carolina Johanna, ça c'est le nom d'artiste, le nom sur le passeport.
Alors, c'est le nom d'artiste, mais c'est aussi mon nom, puisque je m'appelle Caroline Agnès Johanna. Donc voilà, j'en ai fait un petit mix pour que ça sonne comme cela.
On va filer quelques secondes au pays natal.
Les Belges du bout du monde.
Où est ton papa ? Dis-moi où est ton papa ?
Sur la première.
Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
Adrien Jovenot.
Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché ? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts.
Là, j'ai voulu vous faire plaisir. J'ai offert Samoela à Olivier. Là, je vous amène sur un plateau Stromae. C'est la référence pour vous, Marie, Malice ?
Oui, vraiment, Stromae, j'adore. Je pense qu'il représente ma mixité belgo-rwandaise, en fait. Donc, en plus, je pense que c'est quelqu'un d'authentique et de bienveillant. J'aimerais le rencontrer. Donc, j'adore, j'écoute vraiment souvent.
Et puis, branché mode, comme vous ?
Ah oui, c'est très bien. Il faudra que je contacte pour l'habiller.
Pour le prochain calendrier.
Exactement.
Il chantait Papa. Papa, bah, il vous a amené en Belgique quand vous aviez une dizaine d'années. Vous avez fui le Rwanda en 1994. Il est encore en Belgique ?
Oui, le papa il est en Belgique, en Namur. Hein, parce que quand je suis arrivée directement à Namur. Et ma mère aussi est là-bas. Donc Namur, c'est pour moi ma hometown, si je peux dire ça comme ça.
Alors tant qu'on parle des papas, le vôtre, il écrit, il compose des chansons. C'est lui qui vous a initié à la musique, Carolina, Johanna ?
Exactement. Donc vers l'âge de 5 ans, quand j'ai commencé, eh bien, c'est lui qui m'a lancé, entre guillemets. Il avait beaucoup de morceaux qu'il avait écrits, composés. Et en fait, il m'a dit, ma fille, voilà, tu vas chanter mes chansons. Donc vers 5 ans, 7 ans et encore toutes les années qui ont suivi, j'ai chanté ses morceaux jusqu'à l'âge de 16 ans où moi-même, j'ai commencé à écrire. Donc voilà, j'ai commencé avec les morceaux, les compositions de papa.
Papa Pygmalion en même temps. Et puis votre papa, Olivier Laurent, ben, vous le disiez, il vous émancipe à 18 ans.
Il voit que mon activité commence à prospérer et il sent que j'ai besoin d'un appui. Et il décide de prendre sa prépension. Il travaille chez Interbrew. Il prend sa prépension et m'accompagne.
C'est pas mal ça comme idée. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Madagascar ? Parce qu'au départ, vous aviez un garage.
J'avais un garage à Montigny-sur-Sambre. J'achetais du camion d'occasion, on les retapait, on les expédiait sur l'Afrique. Et puis j'ai un client malgache qui se présente et qui veut m'acheter un camion. Le courant passe très bien, assez sympathique, on passe la soirée ensemble, et puis il achète quand même le camion. Et ensuite, il m'invite à Madagascar, et quelques mois après, je partais à Madagascar. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait d'abord, le pays était fabuleux, les gens étaient différents. On a démarré Madagascar, je ne l'ai plus quitté.
Coup de foudre.
Coup de foudre à Madagascar. Ouais. Bon, j'ai fait des allers-retours en Afrique, parce que je travaillais toujours sur l'Afrique, notamment sur le Gabon, et où j'ai créé une activité dans le domaine pétrolier, on faisait de l'assainissement pétrolier.
Et on salue au passage une fidèle auditrice du Gabon qui s'appelle Nathalie Dupagne, qui a remporté les trophées des Belges du bout du monde il y a 2 ans, et les gynécologues sans frontières, et elle aide les jeunes femmes à lutter contre le sida. C'est une femme extraordinaire.
Qui est une très bonne amie à moi.
Ah ben voilà, le monde est un village, le monde est un village. Vous aviez la sensation, en débarquant à Madagascar, que tout était possible. Il y a moins d'interdits que chez nous, en Belgique.
Oui. Il n'y a pas autant de rigidité qu'ici, donc c'est ce côté aussi un peu agréable de pouvoir discuter, de pouvoir s'entendre et cette liberté de se déplacer qu'on n'a plus pour l'instant ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je pense que j'ai plus de 50 ans et j'ai vécu au début de ma vie où on pouvait à peu près tout faire. Maintenant qu'on voit qu'on est resserré de plus en plus et que l'Afrique m'offre toujours cette liberté, je ne voudrais plus la quitter.
Vos parents ont dû la quitter, l'Afrique, Marie-Alice, pour les raisons que tout le monde connaît, le génocide en 1994. Il quitte le Rwanda, maison, terrain, tout est perdu, tout est cramé. Ils ont dû se reconstruire, ça a été difficile. Est-ce que ça a forgé votre envie d'entreprendre et peut-être une certaine philosophie chez vous?
Oui, effectivement, parce que ils ont tout perdu. Vraiment, ils ont recommencé la vie à zéro. Et ça a vraiment forgé un caractère chez moi, surtout se dire carpe diem, en fait, parce qu'on ne sait pas de quoi ce sera fait demain. Du coup, je me dis, il faut vraiment s'adapter à toutes les circonstances et se dire que peut-être que la vie, il faut la vivre maintenant.
C'est dingue ce que vous dites, parce que vous pourriez sombrer dans la gravité et au contraire, ça vous pousse à l'épicurisme, à l'envie de profiter de chaque jour.
Oui, ça me pousse à l'envie d'avancer chaque jour et surtout à la curiosité, au fait de me dire tout ce qu'il y a à explorer, il faut le faire maintenant et essayer surtout faire. Parce qu'entre faire et ne pas faire, il faut surtout faire.
Do it, vous avez raison. No bullshit.
There's no try.
Vous êtes maman aussi de jumelles?
Je suis maman de jumelles hein, de presque 4 ans maintenant et ça me donne vraiment des fils à retordre. J'ai dû réapprendre tout, l'organisation dans le foyer, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, parce que c'est quand même un travail assez rigoureux, si je peux dire ça comme ça.
Surtout que vous travaillez en plus full-time hein, chez Engie. C'est quoi votre poche chez Engie, en quelques mots, parce que c'est très savant ce que vous faites.
En quelques mots, je travaille comme power scheduling, donc je m'occupe, je suis vraiment à la connexion avec les bourses. Je fais ce qu'on appelle les biddings et les nominations, donc vraiment avec l'optimisation de tout ce qu'on appelle nos assiettes, donc les centres. J'aide vraiment les équipes à faire une optimisation de tout ça. Et ouais. Avec...
Donc à la fois artiste et financière. Vous avez deux cerveaux, le gauche et le droit, quoi.
Oui, j'exerce tout.
Vous, c'est plutôt artiste, mais en même temps, on ne va pas se voiler la face, la vie n'est pas toujours facile. Mm-hmm. Vous sortez d'un Covid, vous sortez d'un arrêt de travail, Carolina Johanna, et pourtant vous avez la niaque.
Exactement, parce que je me dis en fait qu'il faut vivre. Il faut garder cette envie de vivre quoi qu'il arrive. Et moi, c'est vraiment, en fait, c'est ma force, c'est de me dire, quoi qu'il arrive, même si je suis censée être à terre aujourd'hui et me laisser aller, non, je reste debout, je garde la tête droite et je regarde devant, je regarde la lumière qui est devant moi. Et ça me permet vraiment de continuer avec l'espoir, en fait, que si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira.
Je lis le calendrier parce que vous êtes aussi mannequin, occasionnel, hein, dans le calendrier de
No Yosemite.
Oui, Yosemite, très belle photo. Et vous dites, je vous cite, hein, je vous lis, dans le monde de demain, je serai cette femme qui élève sa voix contre les discriminations, qui met en avant le dialogue, l'écoute, le discernement, l'ouverture d'esprit, la sagesse des anciens et la bienveillance. C'est beau, ça. Ça résonne aussi en vous, j'imagine, ce respect des anciens. Vous parlez du respect des anciens. C'est quelque chose, Olivier et Laurent,
oui.
que vous ressentez à Madagascar.
Exactement. Ben, c'est cette culture d'Afrique. On arrive à discuter, à résoudre des problèmes, quelquefois autour d'une table, ou autour d'un feu, ou à terre. On arrive à discuter et à solutionner le problème.
Alors vous êtes un opportuniste, Olivier Laurent, parce que vous profitez d'une brèche en 2011-2012, une levée de l'embargo sur l'importation de produits d'origine animale. Exactement. En Europe. Oui. Vous dites, oh là, il faut y aller, vous avez du flair, vous y allez, et c'est comme ça que naît Ilonga Nature et votre travail dans l'apiculture.
Exactement, en fait, j'ai appris l'apiculture grâce à d'autres apiculteurs à Madagascar, à des Malgaches. Et j'ai développé avec un esprit entrepreneuriat l'apiculture à Madagascar, en la structurant, l'organisant. L'idée aussi, c'est de le projet Ilonga Nature, c'est aussi pour aider les autres. Pourquoi pas? Pourquoi ce projet-là ne pas le répercuter dans des pays où il y a des grandes forêts, où on peut récolter du miel, lever les embargos ou lever les blocages entre l'Europe et l'Afrique sur des miels en importation? Parce qu'il y a des miels qui viennent du monde entier qui ne sont pas nécessairement des vrais miels.
De Chine, par exemple.
De Chine, voilà.
Ouais. Ouais, c'est voilà. Sûr.
Mais je pense qu'on pourrait donner, parce qu'on envoie de l'argent en Afrique pour aider la population, mais si on leur donne une opportunité d'être producteur de miel, on a un produit de bonne qualité, Et on aide en même temps une population.
Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de terrain. Quand on est apiculteur, c'est l'agriculture du pauvre. Hein,
exactement.
Pas besoin de terrain. Une ruche, vous la mettez n'importe où, même sur une terrasse d'un hôtel, par exemple. Ça vous donne du miel, un miel originel que vous exportez vers la Belgique avec votre fille. Donc là, il y a une connivence familiale, une connivence aussi avec les apiculteurs malgaches. Vous apportez un peu le côté business. Donc tout ça fait que ça devient une success story.
Exactement.
Alors
exactement.
Je vous propose un petit plan langue. On va écouter un de vos apiculteurs. Il s'appelle Monsieur Marot.
Ouais.
Il va parler en malgache et puis vous allez traduire.
Oui.
On est d'accord ?
Oui.
Allons-y.
Ntatel zany a amgakap ben tacha di felambulis miarun tutuli engana vokua da sishalashala na imlaza na zwe arenga chatia isma ashama film la teo.
Anna Bellicens qui a réalisé ce reportage m'a filé la traduction. Marot dit que l'agriculture, c'est à la fois un loisir et une manière de protéger l'environnement. C'est aussi et surtout une richesse parce que c'est un métier qui me permet de vivre. Je gagne mieux aujourd'hui qu'avant quand je faisais du charbon de bois.
Exactement, c'est exactement ça. Et je pense que les apiculteurs, les paysans qui rentrent dans notre coopérative se rendent compte que le projet Ilanga Nature, c'est vraiment un beau projet. Et ils s'y accrochent et ils y croient et ils transmettent cette idée d'apiculture aux autres. Et ça a l'air de prendre une proportion assez grande. Mais pour vous dire, le président de Madagascar est venu inaugurer une de nos mielleries dans le sud qu'on vient d'ouvrir, dans le sud-est de Madagascar. Et qui croit fortement au projet, il nous appuie et il nous aide sur le projet.
Oui, parce que ça a l'air d'être un petit projet que vous avez dit, ah oui, apiculteur, c'est sympa et tout. Mais il y a combien d'apiculteurs avec vous ?
On a à peu près maintenant 850 apiculteurs.
D'accord. Ouais. Quel volume de production ?
Cette année-ci, on a fait un peu plus de